Nous avons dit aux baptisés à chaque fois, est-ce que vous pensez que vous pourriez maintenant vivre sans le Seigneur ? Ils m'ont toujours dit non, on ne peut pas imaginer vivre sans Dieu. Et pourtant, en chemin, il y a des zigzags et parfois il y a des effondrements. C'est pourquoi nous devons bien veiller à la parole que nous entendons, que nous lisons, pour rester dans le chemin. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler ce matin du Saint-Esprit et de son fruit en nous. Et j'ai choisi deux textes dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Et au verset 15. Jean, chapitre 14, c'est ce que j'ai dit, verset 15. Parlons du Saint-Esprit qui nous accompagne dans le chemin depuis le commencement de notre vie chrétienne. Il n'a jamais manqué une seule fois, pas une seule minute, il était toujours là. Parfois on doutait de lui, mais il disait « Je suis là, je suis toujours avec vous ». Car ce que Jésus dit, c'est aussi lui qui le dit. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, parole de Jésus, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Épître aux Galates. Chapitre 5, vous connaissez bien ce texte, mais c'est le grand chantier de notre vie. Alors on lit Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, selon les commandements, les enseignements de l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est le combat que nous rencontrons. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, c'est beaucoup, hein, et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est sérieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, Parlons-en ce matin, puisque nous avons affaire à lui 24 heures sur 24 dans tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, dans nos prières, dans nos sentiments. Le Saint-Esprit a transformé le premier monde. Au commencement, l'Esprit a soufflé sur les eaux. Il y a eu la lumière. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, pas en le réanimant, mais en lui donnant un corps céleste, un corps éternel, ce que nous aurons bientôt. Le Saint-Esprit a inspiré toutes les paroles de la Bible. Le Saint-Esprit est vraiment l'artisan de notre éternité, de notre destinée. Et Jésus nous dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai le Père. » Frères et sœurs, quel cadeau Dieu nous fait en nous donnant en nous cet esprit qui est à la fois sagesse, bonté, mais qui a créé le monde et qui a suscité la Bible et qui a ressuscité Jésus. Il y a en nous une puissance, il y a en nous un amour, une présence qui me tient debout jour et nuit. À cause de cette présence en moi, en vous, le Saint-Esprit est présent dans le monde. Il fait partie de vos familles, il connaît vos enfants, connaît votre travail et tout ce qui est difficile. Le Saint-Esprit est dans l'Église. Ce matin, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est vraiment là, au milieu de son Église. Et par un retour sur moi-même vers lui, je voudrais ouvrir grandes mes portes et mes fenêtres au Saint-Esprit ce matin. Amen. Car il est avec nous. Et les croyants que vous êtes deviennent par le Saint-Esprit de nouvelles créatures. C'est le commencement de la création éternelle. Elle commence discrètement en nous, cachée. C'est du secret. Mais en nous, l'éternité de Dieu commence. Des nouvelles créations. Les croyants, les chrétiens ne sont pas seuls. Vous recevrez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez. Il est avec vous, tous les jours, en vous, éternellement. L'apôtre Jean, enfin c'est Jésus qui dit, je vous donnerai le consolateur, le paraclète en grec. Je pense que ce mot paraclète, je pense qu'on peut plus le traduire par protecteur, soutien, défenseur, avocat. Je vous donnerai un défenseur. Et je crois que dans notre vie, il y a des choses qu'on voit, puis les choses qu'on ne voit pas. Et dans les choses qu'on ne voit pas, il y a des fortes oppositions contre vous et votre famille. Il y a des fortes oppositions contre votre marche en Christ. Mais vous avez en vous, je n'ai pas dit à côté, en vous, vous avez l'Esprit qui vous défend. Amen. Vous avez l'avocat, le défenseur qui ne chôme pas, c'est le Saint-Esprit. Il n'empêche pas le Saint-Esprit que nous pouvons tomber dans la tristesse, mais il nous assiste, il nous rend forts. Il nous tient toujours en relation avec Dieu. Le don du Saint-Esprit a provoqué l'apparition de l'Église. Comme au début, l'Esprit souffle sur les eaux et la lumière a jailli. Et le Saint-Esprit sur la terre, quand il est descendu, il a fait jaillir l'Église. Actuellement, nous sommes dans le temps de l'Église et le temps du Saint-Esprit. Notre période s'appelle le temps du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit et l'Église sont inséparables. L'un ne peut pas aller sans l'autre. L'Esprit parle au monde, par moi, par vous, par l'Église. Et l'Église agit par le Saint-Esprit. On est liés. Et nous avons la même attente. Le Saint-Esprit et l'Église attendent la venue de Jésus. L'Esprit et l'Épouse, l'Épouse c'est l'Église. L'Esprit Saint et l'Épouse, l'Église, disent « Viens Seigneur Jésus, Amen, viens Seigneur Jésus ». Le Saint-Esprit a hâte que s'arrêtent les violences, les adultères, les débauches, tout ce qui fait la tragédie du monde. Le Saint-Esprit voudrait que Jésus vienne bientôt. Je crois que nous aussi. Viens Seigneur Jésus, c'est le soupir de l'Église. Le Saint-Esprit agit dans l'Église, à moins que nous y mettions une résistance, à moins que nous nous retirions en nous vautrant dans le péché. Mais le Saint-Esprit agit chaque fois que vous êtes là, chaque fois que vous priez. Dans les Actes des Apôtres, le grand personnage, ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Pierre. Le plus grand personnage des Actes, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui inspire les décisions des Églises. Pierre disait, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Autrement dit, il consultait le Saint-Esprit, consultait avant de prendre des décisions, de s'engager. Et le Saint-Esprit, dans l'Église, il fait grandir l'Église. Il la rend plus stable, plus ferme, plus paisible, plus tranquille. Il est vraiment l'ouvrier de l'Église. L'apôtre Paul disait aux Galates que vous avez reçu le Saint-Esprit par la prédication. Quand la prédication est donnée, le Saint-Esprit agit. Combien de fois, je l'ai dit, peut-être 100 fois sur 100, en rentrant chez moi, le Saint-Esprit m'a parlé par ma prédication. Le Saint-Esprit nous parle à moins que nous fermions notre cœur et nos oreilles. Le Saint-Esprit est accordé aux enfants de Dieu au moment de la prédication. Je lance un appel, si quelqu'un a besoin d'un retour vers Dieu, de demander pardon à Dieu, si quelqu'un a besoin de retrouver une communion paisible avec son Dieu, revenez et le Saint-Esprit vous sera donné. Amen. L'Église est le temple du Saint-Esprit, c'est Paul qui le dit. Ce qui veut dire que là où je vais rencontrer le Saint-Esprit, c'est dans l'Église. Je vais à l'Église parce que je vais rencontrer Dieu. Je vais me retrouver face à l'Esprit de Dieu pour me décharger, pour prier avec lui, parce qu'il prie pour moi, il prie en moi. Je vais me mettre au diapason avec lui. Venir à l'Église, c'est venir vers celui qui agit infiniment au-delà de tout ce que nous pensons en nous. Certains me diront, je n'ai pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit ça, je pense que celui-là, il n'est pas chrétien. Il ne connaît pas le Christ. Il n'est pas converti. C'est un païen. Parce que si nous recevons le Christ dans notre cœur, nous recevons aussi le Père. Et nous recevons aussi le Saint-Esprit. Nous recevons, Paul disait, nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous l'avons reçu à la conversion et à la nouvelle naissance. Amen. Bon, ou je m'arrête là ou je continue. Bon. Je voudrais maintenant vous parler du fruit. Et vous avez lu avec moi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Et quand j'ai vu cette liste de qualités, je me suis dit, c'est le portrait de Jésus. À quoi il ressemble, Jésus? C'est un homme, Dieu, patient, amour, calme, doux, tempérant, maître de lui, pas exubérant. Voilà, portrait de Jésus. Galates chapitre 5. Ne riez pas. Et je me disais que ce serait une annonce pour chercher un mari qui serait formidable. Je cherche un homme amour, patient en toute occasion, paisible en toutes circonstances, toujours joyeux, doux, agréable, etc. Ça ne court pas les rues, vous savez. Ce sont des qualités qui ne sont pas forcément très fréquentes dans leur totalité. Avez-vous bien remarqué que le Saint-Esprit met en nous l'amour de Dieu, la paix de Dieu? Il met en nous la patience de Dieu. Il met en nous Dieu. En relisant ces qualités magnifiques, je les ai classées par trois. D'abord, il y a nos relations avec les autres. La patience avec les autres, devant leur aveuglement, devant leur mauvais procédé, patience devant leur lenteur, leur grossièreté, patience. Un chrétien doit savoir attendre. Bienveillance. On ne souhaite aucun mal à personne. On désire le bien de tous. La bienveillance, c'est ça. Et puis, la bonté, c'est-à-dire, désirer faire le bien. Pas seulement le penser, désirer le faire de manière concrète, visible, authentique. Et puis, dans ces qualités magnifiques de Dieu, ces qualités à lui qu'il nous donne, j'ai aussi classé les relations avec nous-mêmes, en nous. La fidélité, c'est-à-dire être solide jusqu'au bout. Ne pas lâcher la charrue de Dieu. Tenir ses promesses. On peut se confier à lui. On peut se fier à lui. On peut compter sur lui ou sur elle. La fidélité. Et puis, il y a la douceur. Relation en nous-mêmes. Le calme. La force, l'énergie, mais contrôlée, qui permettent de dialoguer. On ne parle pas facilement avec quelqu'un qui est toujours exalté, irascible, colérique, compliqué. Le calme, la douceur permet le dialogue. Et puis, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, maîtrise de sa langue, de son corps, de ses passions, de ses pensées, de son caractère, la maîtrise. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons là l'idéal chrétien. Je vais faire attention à ce que je vous dis, mais je dis que si on n'a pas ces qualités, sommes-nous chrétiens? Puisqu'on n'a pas la marque du passage de Jésus dans notre vie. On n'a pas la marque de sa présence en nous. On est comme une coquille vide, sommes-nous chrétiens, si on n'a pas ces qualités. Il faut qu'on réfléchisse à cela. Ainsi est le chrétien. Il est rempli des qualités du Christ. Il a la personnalité du Christ. Il est accompli. Il est vrai, authentique. Alors, bien sûr, on m'a dit, moi je préférais la douceur. Ça c'est ma qualité préférée. Moi, je préférais la patience. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Madame, monsieur, c'est tout ou rien. C'est tous ces fruits ou rien. Parce qu'ils ne font qu'un comme comme une seule grappe, si vous voulez, comme une seule gerbe. Dieu nous donne des dons spirituels différents. À l'un est donné le parler des langues. On entend une langue qui parle, qui chante. À l'un est donné la prophétie, etc. Mais pour les fruits de l'esprit, il nous donne tous le même fruit et totalement. Parce que dites-moi, que serait l'amour sans maîtrise de soi? Je t'aime, mais ça m'énerve. Que serait la douceur sans fidélité si elle ne durait pas juste le temps d'un soir? Que serait la paix s'il n'y avait pas la tempérance, la maîtrise de soi? Donc le fruit, il est total, complet, on prend tout, il nous donne tout. Et le fruit de l'Esprit, il est semé par le Saint-Esprit, il est récolté par le Saint-Esprit, c'est vraiment son œuvre en nous. C'est la plus belle œuvre qu'il fait, parce que cette œuvre-là, elle restera. Les langues cesseront, les prophéties passeront, les guérisons, nous n'en aurons plus besoin dans le ciel, tous les dons surnaturels passeront. Ce qui ne passera pas, c'est le caractère qu'il m'a donné. Les œuvres de la chair d'abord, c'est quoi? Ce n'est pas notre enveloppe, notre corps, nos muscles. La chair, c'est notre nature humaine, telle qu'elle est, déchue. Nous avons tous lâché la main de Dieu. Adam et Ève nous ont fait lâcher la main de Dieu. Notre nature égoïste, pécheresse, et tout ce qui sort de cette nature, si nous sommes seuls sans le Seigneur, si nous sommes abandonnés à nous-mêmes, tout ce qui sort de nous, eh bien, c'est mal. Impudicité, mauvaise pensée, des querelles, des jalousies, nous nous brouillons avec les gens. Vraiment, le naturel chez nous, il est mauvais. Mais le surnaturel que Dieu nous donne, eh bien là, c'est une œuvre qui correspond au portrait conforme de Jésus. Alors je dis, les fruits que vous avez lus avec moi sont la meilleure preuve de votre salut. C'est la meilleure preuve que l'Esprit est en vous. Jésus disait, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est une preuve, la douceur est une preuve, la maîtrise de soi est une preuve qu'on est à Jésus-Christ et que l'Esprit est en nous. Ce ne sont pas nos expériences parfois très personnelles, ce ne sont pas nos expériences émotives, parfois un peu spectaculaires, mais ce sont nos qualités morales qui sont la preuve que Jésus a transformé le fond de notre caractère en le rendant semblable à lui. Nous ne garderons de la terre que nos qualités morales, nous ne garderons que ça. Un homme qui ne vit que par des expériences plutôt hors de cela et qui n'aurait pas l'amour, il ne me toucherait pas. S'il n'avait pas la maîtrise de son caractère, de soi-même, s'il n'avait pas toutes ses qualités, même s'il faisait des choses extraordinaires, je ne m'approcherais pas trop parce qu'il n'aurait pas la marque que l'Esprit Saint est en lui. La marque de l'Esprit, c'est le changement de notre personnalité. Nous étions chair, c'est-à-dire Adam, adamique, et nous sommes devenus chrétiens, christiques. Parlons du fruit quelques secondes. Le fruit de l'Esprit pousse tout seul. Un fruit, ça pousse tout seul, s'il y a toutes les conditions. Mais quand même, avec tous les fruits, il faut parfois y contribuer. Il ne faut pas mettre de pesticides, il faut surveiller la croissance, il faut un bon terrain. Et la croissance de l'esprit, la croissance des fruits de l'esprit est liée à certaines conditions. On est quand même responsable. C'est nous qui allons semer avec le Saint-Esprit dans notre cœur. Dans le même texte des Galates, il est dit « On ne se moque pas de Dieu ». Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà, vous le savez. Hein ? C'est une loi du royaume de Dieu, c'est une loi de la terre, c'est une loi de la vie. Ce que nous semons, nous le récoltons. C'est-à-dire que nous allons peut-être pouvoir deviner ce que nous allons devenir en s'examinant aujourd'hui. Bien sûr, grâce à la fidélité de Dieu. Mais si aujourd'hui nous cultivons, nous semons en nous de bonnes choses, demain, peut-être dans 10 ans, à la vieillesse, nous récolterons de belles choses. Nous récolterons ce que nous semons. Il n'y a pas de mystère, c'est ainsi. Quelqu'un qui est toujours colérique, irascible, infidèle, jaloux, méchant, il restera comme ça. Jusqu'à la fin, il n'aura pas en lui ce fruit qui va se développer dans son caractère. on ne peut pas changer. On travaille tout doucement avec l'esprit. Alors nous semons. Nous semons des pensées bonnes, des pensées pures, sans colère, sans murmure. Nous semons des bonnes habitudes. On sème des orientations de vie. Je ne me laisserai pas dévorer par lui, ou par ceci, ou par cela. Je ne me laisserai pas aller dans tel chemin. On a des orientations de vie. Et puis, on sème aussi par toutes sortes de petits choix que nous faisons dans la vie. Chaque jour, on rectifie, on choisit, on décide. Notre vie est faite de décisions, bonnes ou mauvaises. Et tout ça, ce que nous semons, nous le récolterons un jour. Voilà. Mais il y a une maturation, le fruit, il ne pousse pas en un instant. J'ai jamais vu, moi, des poires qui poussent en 2 minutes. Pouf, ça y est, une poire, paf. C'est une maturation progressive pour les fruits, pour les fraises et les pommes. Mais c'est vrai aussi dans le monde de Dieu, les œuvres de Dieu mûrissent lentement. Il faut le savoir pour nos enfants. Il faut le savoir pour les frères et sœurs qui viennent de prendre le baptême. Ils ne sont pas encore arrivés à la maturité totale. Mais Jésus en parle dans la Bible, dans l'Évangile. Il dit, ça commence par une petite pousse, ensuite c'est l'épi. Après, c'est le grain tout formé dans l'épi. Il y a un progrès, ce n'est pas d'un coup. C'est comme un fruit. Il y a la feuille, le bourgeon, la fleur, le fruit fécondé qui est sans attrait, qui est un peu dur, une poire toute dure. Puis après, il y a la couleur, le mûrissement. Il y a une progression. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il met sa présence à l'instant de notre nouvelle naissance. Je le répète, le Saint-Esprit ne nous laisse pas un instant vide, pas un instant désertique. Tout de suite, il vient. Et puis après, c'est la maturation lente de son caractère en nous. Je vous dis ça, mais pas pour que vous soyez paresseux. Alors moi, vous savez, je ne m'en fais pas puisque ça pousse tout doucement. Un petit peu chaque année. Ça ne veut pas dire laissez-vous aller, ça va s'arranger un jour ou l'autre. Mais ça veut dire surtout, faites attention aux charlatans qui vous promettent des fruits mûrs en 2 secondes. Je m'en méfie. Et vous ? Et j'ai entendu des gens dire, revenons à l'Église. Quand on est chrétien, on a tout de suite tous les dons, toutes les grâces, tout, on a tout, on est... Et des gens sont découragés, parce qu'ils ont encore des violences, des jalousies, voilà. Le fruit pousse doucement, pas en un instant. Et si aujourd'hui quelqu'un, bien peut-être m'a fait du mal, je me dis souvent, il va changer, il va mûrir, le fruit va changer. Et demain, peut-être qu'il sera bien. Frères et sœurs, soyons patients et tolérants. Amen. Avec nous aussi. Il y en a qui se disent, je ne me pardonne pas ceci, je ne me pardonne pas ça. L'esprit travaille lentement. Mais écoutons bien la parole pour travailler comme le Seigneur veut. Marchez selon l'esprit. Restez pas dans votre lit. Marchez selon l'esprit. Avancez de progrès en progrès. Je termine. Je crois dans le Saint-Esprit qui produit ce fruit en moi et en vous. Et j'espère, parce que nous arriverions nus devant le Seigneur si nous n'avions pas ces qualités du Christ sur nous. Ce vêtement de Jésus, ce vêtement pur, ce vêtement de fin lin. Si on est accaparé par notre argent, nos plaisirs, je pense qu'on ne va pas se développer dans le fruit du Saint-Esprit. Alors je crois, Je conclus donc là. Ce dont nous avons besoin pour que ce fruit grandisse, c'est de l'humilité. On n'est pas capable. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Mais je prie pour ça. Je lis la Bible pour ça. On a besoin de croire aussi. On a besoin de la foi. On a besoin de la foi pour croire que Dieu fait mûrir le fruit. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on ressent aujourd'hui. Il ne faut pas se juger trop sévèrement. Le Seigneur fait mûrir le fruit de l'Esprit en nous. On a besoin aussi de discipline. Il ne faut pas se laisser aller, inspirer je ne sais pas par qui. Il faut des bonnes habitudes. Il faut des habitudes disciplinées, des pensées disciplinées. Des relations aussi contrôlées, et puis la prière et la parole. Et puis, je crois qu'il faut aussi de la patience pour attendre. Le laboureur prend patience, il sème et il attend le précieux fruit de la terre. Il faut attendre le Seigneur. Il faut continuer, travailler, se battre et confier tout ça au Seigneur. Croyons vraiment, vraiment, qu'il va nous donner une personnalité sur terre, mais ce ne sera pas en 2 ans, 3 ans, c'est le fruit de la vie, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu. Mais il veut nous donner une personnalité accomplie, belle, mûre, calme, qui prend des responsabilités, qui tient le flambeau jusqu'au bout. Et puis il faut croire aussi qu'il va nous donner une ressemblance totale à Jésus. Le jour, vous savez quand ? Où nous le verrons face à face. En un instant, on a travaillé dur, avec peine, pour être à son image. Mais en un instant, ce jour-là, nous serons semblables à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous battre tout seul dans les marécages de difficultés dans lesquelles vous êtes tombés. Je viendrai en vous, je serai avec vous. C'est un esprit de vérité en moi et en vous. Amen. Donne-nous toujours cet Esprit Saint. Tu nous demandes de demander ce que tu nous donnes toujours. Mais nous le demandons parce que nous avons conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons que l'Esprit agisse en nous pour nous transformer sans cesse. Nous sommes encore trop dans les œuvres de la chair. Transforme-nous, Seigneur, et que notre personne soit à l'image de ton Fils. Que nous soyons dans la force et la maturité du Christ, la stature du Christ. Que nous soyons vraiment des vrais chrétiens qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à Jésus dans sa façon de parler, de penser, d'agir. Seigneur, aie pitié de nous. Nous nous sentons encore si loin de ça. Et parfois, on ne prête pas attention, on ne fait pas attention et on reste dans la médiocrité. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que parfois, notre vie n'avance pas d'un millimètre et parfois même elle recule. Pardonne-nous parce que nous passons à côté de si belles choses et si nous ne les avons pas, nous privons notre femme, nous privons notre mari ou nos enfants. Des belles choses du Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, et change-nous. Amen. Merci, Seigneur. Examen de conscience. Où en suis-je dans ma personnalité? Est-ce que je suis complètement hors de moi, hors du chemin, loin du Christ, y pensant seulement dans un but de superstition pour être protégé. On veut te protéger, mais on ne veut pas lui ressembler. On ne veut pas aller trop loin. Frères et sœurs, réfléchissez bien. Si vous n'avez pas ces qualités, je me pose la question. Si je n'ai pas ces qualités, suis-je chrétien? Ai-je connu le Seigneur? Mais si je le connais, ces qualités commencent à grandir en moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.